10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors l'islam au présent, c'est l'occasion pour vous de parler d'islam pendant une heure tous les samedis sur Beurre FM. Et c'est avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout d'abord, je regrette que Maître Serra n'a pas pu rester avec nous ce soir matin. Je sais qu'il a beaucoup de travail.
Il est parti en courant.
Et je sais que s'il nous écoute,
en tout cas. Il vous a vu arriver, il est parti en courant.
Ouais, je l'ai vu. Non, mais je lui ai fait la bise et tout, il n'y a pas de problème. Et je lui refais un autre bisou là, à la radio, s'il m'entend. Ah oui, je l'embrasse très fort, mon frère.
Berk, berk, berk.
Non, c'est pas berk. On dit pas berk.
On dit quoi, pas berk?
Non, non.
C'est l'imam qui vous fait
c'est
un bisou.
C'est un bisou sur la joue.
Il pique.
Ça va, non? Ah oui, il pique.
Ah oui, l'imam, je veux dire, il pique.
Non, moi non. Moi non, ma barbe est suffisamment.
Vous
mais
piquez pas, vous.
La sienne, ouais, c'est plutôt, on dirait.
Ça pique,
ça pique. Ça pique,
mais il pique, médecin.
Il pique, ouais. Non, mais il pique au niveau de la joue seulement, pas le reste. Hein. Le reste, c'est tout doux.
Bien. alors, on va parler d'un sujet qui pique, du coup, ce
surtout
matin.
Son comportement est très doux.
Si vous êtes d'accord avec ça, Imam Abdelali, nous allons parler de l'adultère, de l'infidélité. Alors, évidemment, le sujet nous a été inspiré par une actualité alors, qui a fait réagir la toile des réseaux sociaux en Algérie avec Rachid, hein, qui s'est marié le même jour au cours de la même cérémonie avec Meriem et Hanen. Il vient de Skikda.
Ouais.
Rachid.
Oui.
Et vous n'étiez même pas au courant, vous ?
Si, si, si. J'étais
au
bien
courant.
Ah oui, j'avais vu l'information. Ouais. Avant même que tu m'en parles, j'étais déjà au courant. J'étais surpris par cet événement. Assez étonnant, assez on va dire assez rare hein, qu'un seul homme puisse se marier. Non, il peut y avoir la polygamie certes, mais il se marie pas avec deux femmes en même temps.
Voilà, c'est au cours de la même cérémonie, c'est ça qui était nouveau.
Voilà. Et là c'est problématique parce que si la polygamie peut être autorisée dans certains pays, je dis bien qu'en France bien entendu, cette pratique est proscrite, est interdite hein, on a le droit qu'à la monogamie, dans d'autres pays où elle est autorisée, et là l'islam reste souple pour respecter les coutumes, les cultures des pays. Certains peuvent trouver ça malsain ou inapproprié. Dans d'autres pays, il fait que c'est tout à fait normal qu'un homme puisse être polygame à partir du moment où il assume pleinement ses responsabilités. Bien entendu, la polygamie, elle a des règles. On peut pas
oui,
faire ça
c'est
n'importe
ça. Parce qu'après, on a vu des commentaires qui ont fleuri sur les réseaux sociaux, notamment sur la fameuse nuit de noces. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui régit la nuit de noces? Est-ce qu'il y a des textes? Est-ce qu'on a des... Une façon de faire, Maître Serran, Imam Abdelali.
Normalement, il n'est pas autorisé pour moi de se marier avec deux femmes en même temps. On doit respecter un certain délai entre les deux mariages, puisque la femme avec qui vous vous mariez, elle a un droit au moins de 7 jours dans lequel vous êtes obligé de ne pas découcher. Hein, vous devez rester avec elle et la combler
d'attention.
D'attention, voilà, pour être poli. Et tout ce qui va avec derrière. Et donc, à partir de là, comment voulez-vous réaliser cela avec deux femmes en même temps? Sachant que, bien entendu, en islam, il est strictement interdit que d'avoir des rapports à trois. C'est-à-dire que l'homme dans un même lit couche avec ses deux femmes, c'est strictement interdit en islam.
Moi, je vous ai demandé comment c'est organisé,
non,
mais je sais pas
clair.
Ce que j'ai voulu dire.
Je suis désolé d'être cru, mais en islam, c'est pas autorisé. La polygamie, si elle peut se faire dans certains pays, je répète, et pas en France, et pas dans beaucoup de pays, on va dire, où
en
est.
En Algérie, ça peut se faire, parce qu'en Algérie, c'est rare.
La finalement. Polygamie, oui. La polygamie est autorisée.
Mais techniquement, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont polygames en Algérie?
Il y en a, il y a un pourcentage qui est très très faible, certes,
oui, c'est ça,
mais qui existe. Maintenant, moi je vais dire une chose, combien il est le pourcentage d'hommes mariés qui trompent leur femme et qui ont des maîtresses? Quelle est la différence?
Là, vous
là, bah, attendez,
vous,
mais non, mais non, mais
non,
c'est la même chose.
Sujet.
Et même des femmes, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les femmes. Combien de femmes mariées trompent leur mari ou ont un amant, voire même plusieurs amants? Ça existe aussi. C'est vrai que il n'assume rien vis-à-vis de sa maîtresse, alors que là, on l'exige d'assumer pleinement son devoir conjugal avec la deuxième femme avec qui il a des rapports conjugaux.
Alors, en islam, on appelle ça comment, Imam Abdelali? C'est un nom?
Zina al-Muhsin. Zina al-Muhsan. Zina al-Muhsan. Ou Zina al-Muhsana. C'est-à-dire, là, on parle d'adultère, tout simplement. L'adultère, c'est l'infidélité, c'est la trahison d'un homme ou d'une femme vis-à-vis de son conjoint, tout simplement. Et ça, bien entendu, c'est strictement interdit. À la fois, il y a un caractère immoral et au niveau normatif, il est considéré comme proscrit, interdit et fait l'objet de menaces divines, d'un châtiment éternel dans l'enfer, puisque dans le Coran il dit wa la yaznun wa man yaf'al dhalika fa yalqa athama, celui qui fait ce genre de pratique de la fornication, yud'af lahu al'adhab, son châtiment sera décuplé, yud'af lahu al'adhab yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana, le jour de la résurrection, et il y restera éternellement en enfer. Bon, bien sûr, il y a le verset suivant qui vient pour le repentir, dire « Sauf ceux qui se repentissent à ce moment-là, pour cela, si leur repentir est sincère, Dieu transforme leur péché en bonne action. » C'est-à-dire qu'il transforme leur mauvais point en bon point. C'est leur sayyat en hasanat, comme le dit le verset. « Yubaddilullahu sayyatim hasanat wa kana Allahu ghafoura rahima. » Donc, nulle panique à bord. Si vous savez, et beaucoup malheureusement ont été à un moment donné dans leur vie, ont dérapé, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez éternellement rester en enfer. Si votre repentir est sincère, et qui n'a pas fauté dans sa vie, et qui n'a pas commis d'erreur dans sa vie, comme l'avait dit Jésus, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Hein, et Jésus avait raison en disant cela, qu'il faut arrêter ce délire. La lapidation qui est liée à cet adultère-là était un procédé qui avait pour objet d'éviter...
Des coups de bâton, il y a encore, hein, vous savez, qui existe, hein.
Non, là, on parle de lapidation, c'est-à-dire le fait de jeter des pierres sur les adultériens. Les adultérins. Les adultérins, parce que adultériens, ce sont les enfants, issus de l'adultère. L'enfant, lui, il est innocent, il n'a rien à voir, le pauvre. Par contre, les parents qui font ça devant quatre témoins, c'est-à-dire dans un espace public, eh bien, à l'époque, comme il n'y avait pas de service de l'ordre, c'était les gens qui jetaient des cailloux sur ceux qui souillaient l'espace public, puisque quatre témoins, c'est le faire dehors. Alors que s'ils le faisaient en privé... Là, il ne risque rien. S'il n'y a pas les quatre témoins, bien entendu, il ne risque pas. Donc, c'est-à-dire que le Coran, à travers cette démarche de lapidation, et encore, ce n'est même pas le Coran qui le dit, c'est la Sunna, hein, puisque dans le Coran, il n'y a rien. Il n'y a pas de texte coranique, je répète, il n'y a aucun texte coranique qui parle de lapidation. Donc, ceux qui me disent, ouais, le Coran ou l'islam autorise la lapidation, je répète qu'à l'époque du prophète, ça ne s'est jamais produit. Hein, c'est simplement pour protéger l'espace public des gens qui feraient ce qu'on appelle attentat à la pudeur et pratiquer des coïts dans l'espace public. Eh bien, ils seraient appréhendés. À l'époque, c'était les gens et aujourd'hui, c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est les services de l'ordre public qui sont là pour nettoyer et protéger l'espace public de ce genre de pratiques qui relèvent de la vie privée et intime des gens.
Alors, Imam Abdelali, ce qui est intéressant, c'est déjà qu'on puisse préciser les choses. En islam, les actes valent par leur intention. Est-ce que quelqu'un qui rêve, par exemple, soit un mari de tromper sa femme, ou la femme de tromper son mari, est-ce qu'on considère qu'il y a adultère ?
Non. À partir du moment où c'est dans le rêve, dans l'imagination, c'est dans la tête que ça se passe, eh bien, aucune sanction ni l'homme ni la femme ne peut accuser son conjoint de trahison
ou
d'infidélité, puisqu'il s'agit de pensées. Et moi, j'invite celui qui a ces pensées-là de ne pas les divulguer, parce qu'il ne peut là, à ce moment-là, que semer la zizanie dans son couple. Tu as des pensées qui sont shaitania, qui sont démoniaques, garde-les pour toi. Demande à Dieu de te préserver des tentations et des tourments démoniaques, mais ne va pas dire à ta femme, tu sais, cette nuit j'ai rêvé, j'ai fait un rêve érotique, je rêvais que j'étais avec telle femme, avec telle actrice, etc. Vous pensez bien que sa femme, ou inversement, la femme qui dit ça à son mari, pareil, j'étais avec tel Brad Pitt ou je ne sais qui, ou DiCaprio, je ne sais quoi. Là aussi, bien entendu, le partenaire qui va toucher sentimentalement le cœur de son conjoint, eh bien, commet une faute morale dans ses relations conjugales. Il ne doit pas dévoiler ça. Parce que ça peut parfois être involontaire. Je rêve, c'est un rêve. J'y peux rien. Quand j'ai rêvé, j'ai rêvé.
Alors, Aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont partout, sont dans les familles. Si vous découvrez que soit votre femme, soit votre mari est en train de chatter avec quelqu'un sur un site, est-ce qu'on considère, et qu'il n'y a pas d'acte, hein, ils font que parler. Est-ce que Imam Abdelali, on considère dans ces cas-là qu'il y a trahison?
Ce qu'on appelle sihaq lafzi, c'est-à-dire le fait de pratiquer une forme d'infidélité, de trahison verbale. Hein, la trahison verbale. Est-ce qu'elle est jugée de la même manière qu'une trahison physique? C'est sûr que non. On ne va pas la juger de la même manière. Il n'y a pas la même gravité que s'il y a eu un rapport charnel et physique. Bien entendu. Donc là, c'est au couple de se remettre en cause et d'essayer de comprendre pourquoi ce conjoint-là vis-à-vis de l'autre, hein, que ce soit l'homme, la femme ou l'homme vis-à-vis de sa femme ou la femme vis-à-vis de l'homme, pourquoi il a besoin d'aller voir ailleurs, pourquoi il se sent obligé d'aller discuter et chatter ailleurs. Est-ce que c'est un échappatoire? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas comblé par son partenaire? J'ai dit dans les deux sens. Hein, je parle dans les deux sens. C'est pas l'homme vis-à-vis de sa femme ou la femme. Ça peut être dans les deux sens.
Mais il n'y a pas trahison.
Alors, si, il y a trahison. Bien sûr qu'il y a trahison. Bien sûr. Vous adressez à un étranger en lui disant « je t'aime mon chéri » ou etc. ou des mots doux. Ou carrément, parfois, il se parle avec la vidéo. Ou est-ce qu'elle se montre elle montre les formes de son corps. Ou elle montre d'accord. certaines parties intimes de son corps. Là, il y a trahison, c'est clair. En tout cas, chez certains...
Est-ce que c'est techniquement...
Est-ce que l'homme est dans l'obligation à ce moment-là, ou la femme bien sûr, dans l'obligation de demander la rupture du mariage, c'est-à-dire que ça soit un divorce, soit une annulation de mariage, peu importe, ou répudiation, talaq, etc. Est-ce qu'ils sont dans l'obligation d'annuler leur mariage? La réponse est non. Est-ce qu'ils ont le droit? La réponse est oui. Ils peuvent faire la demande, dire ouais non, moi je peux pas accepter ce que t'as fait. Pour moi c'est fini. Tu m'as trahi. Tu as été infidèle. Oui, mais c'était pas réel. C'était pas charnel. C'était virtuel.
On prend cet exemple parce que c'est un cas qui revient souvent. Hein, c'est pas.
Ouais, je sais bien. Tu as raison, Philippe. Ouais, je dis le partenaire qui a été trahi, le mari ou la femme ou l'épouse qui a été trahi par l'autre. Eh bien, est en droit de demander l'annulation de son mariage. Elle considère que son mari ne l'aime plus.
C'est pas de l'adultère, techniquement.
Non, c'est pas de l'adultère. Ce n'est pas de l'adultère. Donc, on ne peut pas, juridiquement et d'un point de vue normatif, condamner le partenaire pour adultère parce qu'il a discuté avec une femme en lui disant des mots doux. Il y a péché. Il y a une erreur. C'est une erreur. C'est une faute vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son partenaire. Il y a péché, mais est-ce qu'il y a sentence? Est-ce qu'il y a dénomination et attribution du terme adultère? Non, on ne peut pas parler d'adultère. On parle de trahison verbale. Trahison verbale, infidélité verbale. Et je dis bien que cela, déjà, justifie le droit du partenaire d'annuler son mariage avec son partenaire ou, pourquoi pas, s'il veut lui pardonner, d'aller suivre une thérapie de couple auprès d'un thérapeute de couple pour essayer de reconsolider. Parce que si l'un des deux fait cela, c'est que finalement, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Donc déjà, la corde est en train de casser entre deux. Donc il y a des choses des questions à se poser. Et là, ça relève plutôt du côté émotionnel et sentimental. Et là, c'est là où la ligne de l'islam, en tant que religion qui prescrit un certain nombre de normes juridiques, eh bien s'arrête. On ne dépasse pas, on ne franchit pas la ligne qui relève des émotions. Beaucoup de femmes me disent « Ouais, moi, mon mari, je l'aime plus ». Mais on n'a pas à se mêler des affaires sentimentales. Moi, vous me dites « Voilà, qu'est-ce que dit la religion si votre mari fait ça ou votre épouse fait ça ?» Qu'est-ce que dit la religion? Je suis là en mesure de vous donner l'avis normatif, c'est-à-dire de donner un avis, un hukm shar'i. Mais de me dire, ouais, comment il faut faire pour gérer votre couple, pour qu'il vous aime ou que vous l'aimiez, je peux donner un avis à titre personnel. C'est pas l'imam qui parle. J'ai la casquette d'imam, entre guillemets, ou la chichia, je l'enlève de ma tête et je m'adresse à cette personne-là. En tant que frère, je sais que ce que je vais dire va promouvoir la réconciliation. Dans le Coran, à maintes reprises, quand il y a une inquiétude dans un couple, qu'il y ait une chamaillerie, une mésentente, etc., le Coran propose des solutions de médiation, de réconciliation, de pardon, etc., mais à la limite de où est-ce qu'il n'y a pas eu trahison. S'il y a eu trahison physique, elle est charnelle, bien entendu, un homme dont la femme l'a trompé ou l'homme qui a trompé sa femme, le conjoint n'a rien à faire à accepter de continuer à vivre comme un déyout. C'est-à-dire, le déyout, c'est quoi, Philippe? C'est un petit peu, je ne sais pas comment on dit déyout en français. C'est celui qui accepte de voir sa femme aller voir d'autres hommes, ou un homme, une femme qui accepte que son mari aille voir ailleurs. Moi déjà, je dis à cette femme-là, allez vite fait faire des examens gynécologiques pour savoir si vous n'avez pas chopé des microbes, des maladies ouais. Sexuellement transmissibles. C'est ça, on dit MST, c'est ça? MST, c'est ça, oui. Les MST, donc
non,
il faut...
Non, on dit plus MST.
Ah ouais?
Non.
On dit comment?
On dit IST.
Alors, c'est quoi?
C'est infection sexuellement transmissible.
Il faut impérativement.
Les MST sont devenus des IST.
Si c'est votre femme qui vous a trompé ou que c'est votre mari qui vous a trompé, la première des choses à faire, c'est d'aller faire ces examens-là pour vérifier. Ensuite, tout simplement, s'il y a eu tromperie charnelle, eh bien, d'interrompre le mariage.
Vous parlez de tromperie charnelle. Mais alors, je suis désolé, je vais être plus précis, Mme Abdelali, juste pour que tout le monde comprenne bien. S'il y a juste eu un bisou, oui.
Donc il y a eu rapport. Alors c'est bisous comme un frère et sœur ou un bisou?
Non, je pense qu'il y a pas, il y a pas eu de consommation, mais il y a eu un bisou. Est-ce que ça c'est considéré comme de l'adultère?
Oui, bien sûr. Non, c'est pas considéré comme de l'adultère. C'est considéré comme de l'infidélité et de la tromperie et de la trahison. L'adultère, écoute bien, c'est clair.
C'est ça que je veux comprendre.
Le calife Omar a clairement défini quand il a vu un chien monter sur une chienne et qu'il y a eu rapport intime. On voyait, il a dit, tant que vous ne voyez pas cela, il n'y a pas adultère. C'est-à-dire, quand vous n'y a pas pénétration, coït, rapport intime, rapport sexuel, eh bien, vous ne pouvez pas aller accuser une femme d'adultère ou un homme d'adultère. On ne peut pas parler d'adultère tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle, quand on veut témoigner, par exemple, tant que vous n'êtes pas témoin de ce rapport charnel, eh bien, là, on va appeler, là, ce que tu évoques, Philippe, ça s'appelle le sihaq. C'est-à-dire les préliminaires à une fornication.
Bien, c'est l'islam au présent, vous savez, c'est jusqu'à 11h. Vous pouvez de toute façon à intervenir à n'importe quel moment au 01 53 48 3000 et interroger l'imam Abdelali, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, on parle de l'adultère ce matin et plus largement de la trahison en islam avec l'imam Abdelali Mamoun. Vous pouvez poser vos questions au 01 53 48 3000 en direct, 01 53 48 3000. Alors comment l'imam Abdelali, la religion musulmane, que dit-elle concernant l'infidélité?
Bah écoute, bien sûr, elle considère que déjà avoir une relation... Alors on parle vis-à-vis des droits de Dieu, vis-à-vis des droits de Dieu. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal nous a confié notre corps... Et il nous a orienté pour que nos intuitions, nos envies, ce qu'on appelle gharaiz al-jinsiya, soient orientées vers ce qui est bon. Hein. Même par exemple la nourriture, tu ne peux pas manger n'importe quoi. Mais tu peux manger, on ne va pas te dire non, tu ne manges rien. Non, tout est autorisé sauf les quelques...
choses
qui ont été citées dans le Coran et même il le dit clairement, qul la ajidu fi ma utiya muharraman, dis-leur ya Muhammad que je ne trouve rien de ce qui vous a été proscrit, si ce n'est, et là il va c'est donc ce qui est interdit est l'exception. Là il parle de la viande, chair de porc, la viande morte, le sang, voilà, dam el maswa, le sang répandu, bien sûr, pas du sang répandu, pas du sang, pas les résidus du sang qu'il y a dans le corps. Non, ou dam el masfouhan, in yakuna maytatan ou dam ou lahma khinzir. Et donc c'est quand il y a eu la dinamo kulu min at-tayyibati ma razaqnakum, mangez ce qui est bon et utile pour votre corps. Et il dit vous, il vous a été proscrit tout ce qui est nocif. C'est aussi pareil que Dieu a mis en nous ce besoin d'assouvir un besoin sexuel. Il faut appeler les choses par leur nom. Je suis désolé pour nos auditeurs que ça existe à partir de la puberté. Un homme ou une femme a besoin de combler ce besoin charnel. Et donc à partir de là, Dieu dit quoi? Il dit oui, vous pouvez le faire. C'est pas, on va pas vous demander de faire de vœux de chasteté comme on le demande, par exemple, aux prêtres, etc. Alors que aussi, en ont les pauvres cette envie, ils ont toujours cet instinct, ils ont toujours ce besoin. Eh bien non, Dieu ne peut pas, pour nous, en islam, interdire à quelqu'un de combler quelque chose que c'est que lui-même Dieu a mis en nous comme étant un instinct et un besoin intrinsèque. Donc à partir de là, l'homme dit oui, tu vas avoir des rapports, mais tu le fais dans les règles. Pourquoi ? Parce que ce rapport a des conséquences, notamment la procréation. Mmh. Donc un homme ou une femme qui aurait des relations avec une multitude de femmes sans mariage, sans contrat, sans rien, c'est tout simplement l'anarchie et la perte de la filiation et de la descendance, ce qui bien entendu est grave, puisque la personne qui va naître de cette union n'aura plus de racines. Elle pourra pas dire mon père c'est qui ? Qui est mon père ? Il y a plus de père.
Boumediene, vous êtes avec nous et vous nous avez rejoint au 01 53 48 3000. Bienvenue Boumediene.
Bonjour.
Bonjour Boumediene.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Bah, il me pose une question, le Hajj Abdelnami Moumoul.
Oui.
Bonjour Philippe. La question est que, voilà, est-ce qu'un mari peut accepter que le fils de la sœur de la femme, Harraj, Harraj Al-Bahar, c'est là, il y a un dernier fils.
Alors.
J'ai pas tout compris.
Oui, j'ai compris. Le neveu, c'est-à-dire.
Le neveu.
Une femme a un neveu.
Oui.
Un neveu qui habite au bled. Et qui est clandestin. Il a traversé la mer. Il a pris les risques de traverser la Méditerranée. Et en arrivant en France, il est venu chez sa tante. Et sa tante, c'est la femme de monsieur qui nous parle là. Donc sa tante, c'est chez lui aussi. Donc est-ce que une femme ou un homme, hein, ça aurait pu être ton neveu à toi, hein, dans l'autre sens, pareil, hein. Dans les deux cas. Est-ce que. On a le conjoint, l'autre conjoint, est dans l'obligation d'accepter d'accueillir le proche chez lui. La réponse est dans la tradition, c'est 3 jours. Au-delà de 3 jours, c'est fadl. C'est-à-dire qu'il faut à ce moment-là, après les 3 jours, il faut le consentement de l'autre partenaire. C'est-à-dire si l'autre partenaire est d'accord, il reste à la maison. S'il dit non, eh ben il est dans l'obligation de quitter le domicile.
Obligé 3 jours.
Oui, il doit accepter 3 jours.
C'est l'obligation de.
Oui, puisqu'il arrive, il est encore tout fatigué, il a besoin au moins de 3 jours pour se reposer, pour retrouver mettre les pieds sur terre et voir un peu ce qui se passe autour de lui. Vous vous rendez compte, il traverse la mer. Bon, il n'y a pas que lui, hein, n'importe quel voyageur. Ça aurait été la même chose. À partir du moment où il s'agit d'un mahram, là, il est mahram, c'est son neveu. Si ça n'avait pas été son mahram, je l'aurais dit tout de suite non. Quelqu'un avec qui
extérieur à la famille,
voilà, et qui n'a aucun lien de sang avec la femme, eh bien là j'aurais dit non. Mais là il y a un lien de sang, c'est son neveu. On est bien d'accord. Ou le dourta, c'est ça.
Ou
le dourta.
Vous voulez rester 4 mois chez moi et je vais renvoyer.
Non, alors ce qu'il fallait faire, c'est faire. Alors quand toi tu as fait preuve d'indulgence et que tu l'as laissé 4 mois chez toi. Il fallait, le dernier mois, dire à cette personne-là, en même temps à ta femme, écoute, moi, je suis plus en mesure d'accepter de pouvoir accueillir cette personne-là à la maison. D'abord parce que c'est trop exigu. Tu peux trouver des excuses, hein, ou même tout simplement, je ne veux pas. Je veux garder mon intimité et je veux être tranquille chez moi.
Il n'y a pas besoin de justifier.
Ah non, il n'y a pas besoin de justifier. C'est déjà beaucoup d'avoir accepté qu'elle reste chez toi.
Non, mais vous avez accepté 4 mois ou pas,
Si, il a accepté. Et 4 mois après, il l'a viré. C'est ce qu'il a dit. C'est bien ça.
Voilà. Exactement.
Il est resté 4 mois.
Il est resté 4 mois et après il l'a viré. Non, il fallait pas le virer, mais il fallait le prévenir un mois à l'avance en lui lançant un ultimatum. Il dit je te laisse un mois pour que tu puisses trouver des solutions et ensuite tu lui demandes gentiment de partir, mais sans le virer. Il faut pas le virer.
Ouais, je fais quoi là?
Non, tu lui demandes de partir gentiment. Ça, faut qu'il parte en bon terme, parce que déjà
il veut pas partir.
Ben non, mais déjà il te remercie d'avoir accueilli 4 mois. C'est déjà bien.
Ta tante ne veut pas qu'il reste.
Moi, c'est-à-dire ta femme, tu veux dire?
Oui.
Elle ne peut pas. La femme ne peut pas décider seule de qui doit habiter dans la maison ou pas. Oui. Il faut que les deux. Bien sûr, il n'y a que vos enfants et vous qui ont un droit légitime et que personne ne peut expulser de la maison. Le mari, la femme et les enfants ont un droit légitime dans le domicile conjugal. Le domicile familial, d'accord ? Toute personne autre, le frère de la femme, le neveu de la femme, qui que ce soit, il faut que les deux conjoints soient d'accord.
Mais si l'un des deux... Elle, il s'arrête où ?
Si ça arrête au fait que si tu lui dis non, je veux plus que ton neveu... Il reste à la maison, bah, il doit partir, tout simplement. Il doit s'organiser pour partir gentiment.
Et quand il part, il dit merci de m'avoir accueilli tout ce temps-là. Et non pas il se bna ou igada ou gultuma kada ou kada. Non, non. Il est en France, c'est un mec, hein, il peut se débrouiller. Hein, il va pas.
27 ans, c'est pas un gars.
Allahumma barik, on est d'accord. Donc ça, c'est la situation de beaucoup de gens en France.
Et depuis que je l'ai renvoyé, c'est la gueule, c'est la dispute, c'est les engueulades.
Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Elle devrait au contraire te remercier d'avoir accueilli son neveu pendant 4 mois au lieu de 3 jours. D'avoir accepté de dépasser le délai légal religieux et moral en islam qui est de 3 jours, des haqq diyafa 3 ayyam. Au-delà, c'est du fadl, c'est-à-dire
ceci dit, déjà 4 mois, c'est quand même long, hein.
Non. Il est venu ici pour dans Tamara, mais chez Arfen França, c'est pas facile. Il y a les gens, ils se font des films. En France, c'est l'Eldorado. Dès que tu te baisses par terre, tu trouves des billets partout. C'est pas vrai. La France, c'est galère. Et ceux qui traversent, qui risquent leur vie, eh bien, ils risquent pas leur vie pour trouver le paradis. C'est pas vrai. La France, c'est pas le paradis. Donc maintenant, qui sait ce que ça veut dire? Eh bien, il va goûter à l'amertume des difficultés que peuvent rencontrer les gens quand ils sont en France.
Ouais. Ça, maintenant, mon problème à moi, c'est maintenant comment faire pour me séparer de ma femme parce que je peux pas rester avec elle dans la maison.
Non, tu dois essayer de te réconcilier. Elle doit être raisonnée. Il y a quelqu'un qui doit venir lui parler, lui dire, madame, faut pas abuser.
Elle veut pas,
alors à ce moment-là, oui, c'est sûr qu'une femme qui n'assume plus son devoir conjugal, je sais pas qu'est-ce que vous avez encore à rester ensemble. Ça fait depuis combien de temps que vous êtes en froid?
Ça fait 7 mois.
7 mois que vous dormez pas ensemble?
Non, je suis vieux, j'ai 77 ans.
Mashallah, on dirait pas. Mashallah, t'as une voix de jeune, Khoya, mashallah.
Ah ouais, alors là, dis donc.
Ouais, je sais pas, moi j'avais l'impression. Wallah, je te promets, je croyais que le gars il avait 30 ans, on a 35 ans. Si ma fille.
Elle a quel âge, votre femme?
Elle va avoir 65 ans en 2023.
D'accord, donc c'est pas. Oui, voilà, elle est.
2023, 35 ans.
Non, même à cet âge-là, la femme a un devoir de consolider des liens, ne serait-ce.
De mariage.
Non, mais c'est complètement absurde.
Ça fait 3 ans qu'on est mariés.
Mais non. 33 ans.
Ouais. Et ce garçon-là, maintenant, qui a été à la cause de cette zizanie dans le couple, alors que vous lui avez fait tout ce bien-là, pourquoi vous n'avez pas essayé de penser à lui parler pour lui dire, écoute, va parler maintenant à ta tante et voilà, et lui dire.
Non, au contraire, quand je suis pas à la maison, il vient à la maison, il mange, il se douche, il s'en va.
Je suis
au courant.
Il n'a pas le droit de rentrer à la maison, normalement, sans votre consentement.
Oui. Chez vous, comment faire comprendre
votre personne n'a le droit de faire rentrer dans le domicile familial un étranger sans le consentement des deux parents, maîtres et maîtresses de maison.
Ce que je vous demande, moi, c'est la solution.
Qui va?
Alors, on ne sait pas.
La solution?
Non, mais en tout cas, peut-être la solution, je ne sais pas. Mais
il faut une médiation.
Mais voilà, avec votre histoire, ça mérite une médiation.
Une médiation, il faut faire une médiation.
Akhoya, 33 ans de mariage, bon.
Écoute, Akhoya, tu m'appelles hors antenne. On peut en parler hors antenne, parce qu'il faut quand même donner la parole aussi aux autres. Le 06 29 25 35 00. 06 29 25 35 00.
Voilà, Moubidienne. C'est vrai qu'on a de plus en plus de couples qui se séparent à des âges.
Je trouve que cet homme-là, qui a semé la zizanie dans ce couple fragile déjà, eh bien, il doit être reconnaissant, faire preuve de reconnaissance, d'aller voir sa tante. Il dit, maman, tata, c'est bon, khalas, smihlo, na ma'alish. Déjà, il a fait 4 mois, il a accepté de m'accueillir. Je dois pas être, moi, maintenant, une source de mal dans sa famille. Donc, alors que lui, il m'a fait du bien. Normalement, il dit le khair, hadd rajul. Ou il mchi and khalta, khalti lazim tsalih ma ammi. Donc voilà, tu dois te réconcilier avec tonton.
Bon, on va continuer. Vous êtes nombreux au standard. On va continuer avec vos appels dans un instant, le temps d'une pause publicitaire. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. L'islam au présent, c'est jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon.
Tout à l'heure, à partir de 11h, vous passerez vos petites annonces en direct sur Beurre FM au standard au 01 53 48 3000. Retour de vos petites annonces week-end tous les samedis sur Beurre FM. Dans un instant, on prendra également vos appels au standard si vous voulez intervenir et interroger l'imam Abdelali Mamoun. Je vous rappelle ce numéro 01 53 48 3000. Et puis à partir de midi, vous retrouverez Manuel Mariani et toute son équipe pour Dessus de Table, votre magazine qui parle de gastronomie sur Beurre FM. Alors 01 53 48 3000, nous avons Madani qui nous rejoint au standard. Madani, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Madani.
Salam alaikum.
Salam alaikum Madani, marhaba avec.
Alors par contre Madani, baissez la radio si vous avez le son de la radio.
Je voulais parler d'une histoire personnelle et à l'imam s'il vous plaît.
Alors ouais. Allez-y.
En fait, moi, je suis originaire d'Algérie, de Kabylie. Je suis venu en France à l'âge de 7 ans. D'accord. J'ai fait ma scolarité en France et tout.
Ouais.
Et j'ai toujours été intéressé par la connaissance.
C'est bien, ma chère.
À mon jeune âge, j'étais toujours même en primaire, au collège, au lycée et tout. Je faisais partie des premiers de la classe, comme on dit.
Ma chère, allez.
Ça m'a beaucoup servi.
T'étais un studieux, quoi. Un élève studieux.
J'étais un studieux, élève gentil, sérieux. Les profs, ils pouvaient compter sur moi. Les élèves, ils pouvaient compter sur moi et tout.
Allah,
et donc, ce qui m'amène à vous aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique.
Ouais.
C'est-à-dire que dans le Coran, c'est écrit au-delà de la grande barrière, il y a une mer d'eau douce à boire et de l'autre côté, une mer amère et salée.
Mmh.
Là, les Américains, ils ont chaud, ils sont en train de découvrir des zones, des sources. Sur la côte, ils ont découvert une eau potable, mais salée. Mais elle était potable, mais un tout petit peu salée, mais elle est potable. Ils sont en train de fouiller, ils sont en train de chercher, mais ils n'ont pas encore trouvé la mer d'eau douce. Et c'est bien écrit que c'est au-delà de la Grande Barrière. Et quand on regarde la carte océanographique, la Grande Barrière, elle se trouve...
Alors déjà, on va corriger les vocabulaires de traduction du Coran. Baynahuma barzakhun la yabriyan. Al barzakh, c'est-à-dire une barrière, en effet, mais pas grande barrière. Et là, il s'agit tout simplement de connexion de courants marins avec des courants d'eau douce qui ne se mélangent pas. Où le Coran évoque le fait que ces masses d'eau qui se rencontrent d'un côté l'eau douce et de l'autre côté l'eau de mer, l'eau salée, et qui ne se mélangent pas. Mais là, on sait qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits dans le monde, se rencontre justement ce genre de phénomène. Et on n'a pas d'explication. C'est vrai qu'on ne sait pas encore pourquoi les eaux ne se mélangent pas. Il y a une multitude d'explications qui pourraient être d'ordre atomique ou
une mer d'eau
qui n'est pas salée, qui est potable, qui arrive des rivières. C'est l'eau des rivières.
Les mouvements marins avec les fleuves, les
effectivement sous, que même dans à l'intérieur de la mer, il y a des courants d'eau douce qui circulent effectivement aussi. On sait qu'aujourd'hui tout ça est vrai. Mais regarde, la radio, notre émission, c'est pas une émission sur les vérités scientifiques du Coran. C'est là, on parle aujourd'hui de divorce, d'infidélité. C'est quoi ta question par rapport à tout ça?
Ma question, bon, j'ai une histoire personnelle aussi. Hein.
Alors on y va, raconte-nous ton histoire personnelle.
Je suis en rupture avec ma femme.
Ah, voilà.
Je voulais vous dire que j'avais besoin d'un peu d'aide pour aller voir et vérifier ma vision du quatrième genre de connaissance.
Quatrième genre de connaissance?
Oui, il y a Spinoza, il a dit l'important c'est de faire le quatrième genre de connaissance.
Je connais pas c'est quoi ce quatrième genre de connaissance. Je connaissais ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. J'ai en plus quatrième, là je suis dépassé, regarde. Je connais pas.
Je pense qu'il faudrait appeler Vanessa le soir.
Le genre de connaissance, c'est la connaissance intuitive en Dieu.
Ah, la connaissance intuitive, oui d'accord, instinctive quoi, on peut dire ça comme ça. Celle qui n'exige pas d'explication rationnelle.
Quand Dieu vous enlève le rideau sur le cœur,
oui.
Il vous enlève le rideau et après vous voyez une preuve de l'existence de Dieu et de ses prophètes dans la nature, sur la surface de la matière. Ça s'appelle la matière mémoire dont parle Gilles Deleuze.
La matière noire?
La matière mémoire.
Mémoire, la matière mémoire. Oula.
Alors on est dans la matière mémoire, c'est sur la surface de la matière.
C'est l'homéopathie, ça?
On distingue des visages des animaux comme sur les nuages.
D'accord. En tout cas, c'est vrai que vous avez des références.
On voit ça quand on est enfant, quand on est pur.
Madani, vous avez des références déjà littéraires qui sont importantes, hein, ouais, puisque vous avez cité Spinoza, Gilles Deleuze. Vous savez quoi, mais c'est vrai que les vérités scientifiques du Coran, c'est vraiment un sujet passionnant.
On pourra évoquer un jour.
Vous avez besoin d'un hydravion ou d'un bateau pour aller vérifier.
Oui, alors attendez.
Il y a quelqu'un qui a un bateau ou un hydravion qui écoute.
On va vous trouver ça, mais on va pas vous trouver ça aujourd'hui.
Moi, j'ai pas les moyens.
On va pas vous trouver ça aujourd'hui.
J'aimerais bien le voir pour moi. Trouver le verset du Coran, comme quoi, c'est vrai. Et moi,
merci Frayachov. Écoute, appelle-moi au téléphone en privé 06 29 25 35 00 et comme ça on donne un peu la parole aux autres, s'il te plaît. Merci Roya.
Moi je veux bien relever le défi pour l'hydravion.
L'hydravion?
Ah oui, j'adorerais. Ah, mais oui. Alors si on trouve un hydravion, on va avec.
Ah, mais il faut déjà le permis pour le conduire.
Non, mais
il faut un pilote, il faut le payer.
Non,
on va pas. Après, il y a le carburant, oh là là, bon, l'entretien. Tiens.
Aziza nous rejoint. Aziza, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Aziza, j'espère que vous n'avez pas besoin d'un hydravion.
Non.
Ça va, alhamdoulilah, ouf. Parce que là, il faudrait une usine à hydravion.
Oui, non.
On va fournir des hydravions à tout le monde. Là, ma sœur, on vous écoute
pour
votre question.
Émission, merci beaucoup. Donc, je vous appelle, moi, parce que ça fait des années que je suis mariée. Et on a fait plusieurs tentatives de PMA pour avoir des enfants. Donc, c'était tout échoué. Et le médecin nous a parlé de l'odeur de vos sites. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce qu'il dit notre chère religion sur ça. Est-ce que c'est halal ou haram?
Consensuellement, je réponds consensuellement, c'est-à-dire de manière unanime. Tous les savants disent que si Dieu interdit la fornication, et dont la visée, c'est-à-dire le pourquoi qu'il a été interdit, c'est de préserver la filiation, ce n'est pas pour le transgresser de manière scientifique. Puisque là, un don d'ovocyte, on est bien d'accord, c'est l'enfant, et c'est bien le capital génétique de d'autres personnes. Oui. C'est exactement ce que veut éviter le Coran. C'est qu'un enfant, quand il sort du ventre de sa mère, ça soit bien le capital de sa mère, le capital génétique de sa mère et de son père, qui soit dans ton corps et non pas celui d'un inconnu. Parce que le don d'ovocyte, imaginez demain, vous faites un don d'ovocyte, l'autre fait un don d'ovocyte, et puis les gens tombent amoureux alors qu'ils n'ont pas le même nom de famille. Ils ne sont pas élevés dans la même famille. Alors qu'ils, génétiquement, ils sont issus d'un même don d'ovocyte. Donc ils ont la même mère, le même père. Donc c'est de l'inceste. Pourquoi Dieu a proscrit? C'est pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Si on commence à, scientifiquement, on va dire, commettre l'adultère, c'est-à-dire provoquer une forme de désordre d'affiliation, ou est-ce que l'enfant, on ne sait pas qui est à l'origine de son capital génétique, alors à ce moment-là, à quoi ça sert le mariage?
Donc c'est non.
Bah non, bien sûr.
La question, c'est pas autorisé, c'est ce que vous dites.
Vous pouvez adopter un enfant dont le père et la mère, ou même au moins la mère est connue, parce que la mère, si elle a commis une faute, c'est pas la faute du bébé. Donc vous pouvez l'adopter, mais en disant bien dans les papiers que cet enfant-là, même il peut porter votre nom de famille, mais vous ne pouvez pas l'affilier, c'est-à-dire vous pouvez pas dire que c'est mon fils biologique. Vous pouvez dire que c'est mon fils adoptif, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de difficulté. On a commencé le parcours d'adoption, mais je voulais juste savoir et être clair que c'est vraiment, que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire.
C'est proscrit.
Ok, très bien, merci beaucoup.
Je vous en prie, ma sœur. Qu'Allah yallah yjibakdriya salih.
Merci.
Amin, Aziza. Merci beaucoup.
Est-ce qu'aujourd'hui il y a toujours des réflexions des oulémas sur le sujet ou c'est non?
Ça y est, c'est fait, c'est bouclé.
C'est arrêté.
C'est bouclé puisque là il n'y a pas de situation qui peut changer. Hein.
Non, mais de toute façon, parce que ça c'est un vrai sujet de société sur lequel bon la société évolue au fur et à mesure.
Seul le capital génétique du papa et de la mère peuvent être faire l'objet d'une insémination ou bien d'une forcée dans l'éprouvette, la fécondation, mais du matériel de monsieur entre guillemets et du matériel de madame, c'est-à-dire de l'ovule de madame avec le spermatozoïde de monsieur.
Abdel, vous êtes là avec nous au 01 53 48 3000 au standard de Beurre FM. Abdel, bienvenue.
Oui, salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Alors, en fait, je voudrais juste poser une question au cher, si c'est possible.
Ah, vous êtes le bienvenu.
Non, t'écoute, arrête.
En fait, c'est un cas personnel. En fait, voilà, pour faire court, moi, je suis récemment marié, donc depuis 5 mois.
Allahumma barak.
Et ça fait 4 mois que j'ai emménagé avec ma femme. Donc, on est tous les deux nouveaux à Lyon, donc nouveau emménagement, tout ça. Alors, on a eu un peu de difficultés comme tous les couples. Comment on dit Sam el Mohal, et je me suis pris la tête un peu avec sa famille. Et maintenant, il n'y a pas de dialogue. Donc, j'ai la famille ado et moi je viens d'Algérie. Donc on va dire je suis tout seul.
Attendez là, pour être clair, vous êtes aujourd'hui en froid avec votre femme, c'est ça?
Depuis le début de la relation, en fait.
Depuis le début, c'est-à-dire vous n'avez jamais consommé votre mariage?
Oui, on a consommé.
Mais... Combien de temps? Ça s'est bien passé pendant combien de temps?
Ça s'est passé.
Alors, Chovachoya, le mieux, non. Alors, écoute, le mieux, c'est quoi? C'est qu'on s'appelle en privé parce que je pense pas que les D'accord. auditeurs ont besoin de connaître okay. ta vie privée okay. et de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ton couple. Okay. Moi, je te connais pas et j'ai pas besoin de te connaître. J'essaye d'être à l'écoute de nos chères auditrices et auditeurs qui ont besoin d'avoir des conseils, des orientations. Alors, sachez que quand ça dépasse mes compétences, j'oriente la personne vers justement les personnes compétentes. Notamment, par exemple, dans le domaine de médiation, dans le domaine de thérapie de couple, il y a des thérapeutes aujourd'hui comme Ali Habibi, comme Farida Kassed, comme Shadi Baou, etc., qui sont des...
Shadi Baou, elle s'appelle Karima. Hein.
Karima, voilà, Karima. Merci. Je retrouve plus le prénom
non,
Karima.
Non, parce que là, je merci, préfère merci, l'appeler Karima.
Karima, ma chère
Baou,
Karima, bon. Que je salue au passage, qui est une femme très compétente aussi pour régler ce genre de problème. N'hésitez pas à vous concerter avec ces gens-là. Et donc, mais avant, bien entendu, vous pouvez m'appeler pour me demander mon point de vue. Ensuite, je vous orienterai vers la bonne personne. Mais je ne peux pas me porter garant d'être compétent pour moi-même régler votre problème. Parfois, d'un point de vue religieux, je peux essayer de vous dire, voilà, faut faire ci ou faire ça pour être en conformité avec la volonté divine et en même temps d'obtenir de lui sa satisfaction, son agrément et donc son aide et son soutien. Et pour que grâce à cela, vous puissiez avancer dans la vie. Mais ça s'arrête là. Donc appelez-moi en antenne au 06. Prends un stylo. Voilà, si j'ai le raqam.
J'ai un stylo.
06 29 25 35 00. Et ensuite, donc Charla, on parlera en privé. Tu m'expliqueras qu'est-ce qui se passe avec Madame. Et d'abord, pourquoi elle est fâchée contre toi? Parce que si ça fait plusieurs mois que c'est comme ça, et elle a quitté le domicile ou elle est toujours? Vous êtes toujours sur le même toit?
En fait, c'est une situation complexe où comme je me suis mis sa famille ado et qu'elle a en fait elle a pas de
qu'est-ce que t'as fait pour mettre sa famille ado pour te mettre sa famille ado?
Il y a eu une petite dispute de rien du tout.
D'accord. Alors à ce moment-là, je suis hors antenne. Rappelle-moi après l'émission. Allez, salam alaykoum, ya rabbi.
Si vous aviez moins parlé, on aurait connu l'histoire. Voilà.
Bah, je te la raconterai.
Non,
je te dirai pas qui c'est.
Non, à tout le monde, parce que je crois que alors pour le coup, ça intéresse tous les auditeurs de savoir pourquoi. Et c'est vrai que parce que dans les couples, on sait très bien que les familles interviennent.
Non, mais pour un rien, des fois dans un couple, dans la famille, il suffit que le garçon il dit un truc, il dérape, il fait pas attention, il s'énerve à un moment donné, et puis ça part en vrille, hein, ça part à crescendo.
Bon. Vous revenez la semaine prochaine, Imam Abdelali, Mamoun, l'islam au présent, vous le savez, c'est tous les samedis entre 10h et 11h. Dans un instant, ce seront vos petites annonces. Si vous avez un hydravion, on est preneur, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.